Hashtag Un autre regard sur le handicap.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Hashtag, l'émission qui donne la parole à des personnes en situation de handicap afin d'évoquer leur parcours de vie, leurs projets, leurs préoccupations et leur permettre de débattre sur des thématiques diverses qui les concernent. Alors après une émission consacrée à la Fondation Andy Blum le mois dernier, nous allons évoquer aujourd'hui le dispositif Étape, étape de transition adaptée professionnelle et le service de remobilisation au travail SRT, deux dispositifs complémentaires qui accompagnent chacun à leur manière des personnes en situation de handicap sur le chemin du travail, de la confiance en soi et d'un projet professionnel réaliste et motivant. Pour en discuter à mes côtés, nous avons Anne Clément, directrice de la communication au Clos du Nid. Bonjour Anne.
Bonjour Ludovic, bonjour à tous.
Avec nous pour cette émission également, Patrick Malfroy, directeur du pôle travail adapté du Clos du Nid. Bonjour Patrick.
Bonjour à tous.
Voilà, qui était déjà venu dans d'autres émissions. Merci de revenir aujourd'hui. Lydvine Tararive, monitrice éducatrice à l'étape et au SRT O2. Bonjour Lydvine.
Bonjour.
Nous avons Alexandre Bouziane, vous avez été accompagné par le dispositif Étape. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi Dorian Poujol accompagné, lui, par le dispositif SRT. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, pour commencer cette émission, peut-être Patrick et Lydvine, en quelques mots, comment définiriez-vous le dispositif Étape et le SRT et qu'est-ce qui caractérise finalement leur approche ?
Alors, les dispositifs Étape SRT ont été créés suite à un constat qui a été fait sur les ATT, où nous accueillons de plus en plus de jeunes qui viennent d'IME, d'IM Pro, et la transition entre l'accompagnement IME, IM Pro et le travail était parfois, on peut dire, un peu brutale. Donc, on a aussi créé ce dispositif pour, comme son nom l'indique, créer une étape de transition pour accompagner les nouveaux entrants vers le travail en proposant quelques activités et en élargissant les intérêts par rapport à la confiance en soi, la façon de se comporter, etc., etc. Donc voilà pour la partie étape. Et SRT, c'était aussi un constat qu'on avait fait avec les collègues du pôle du PTHI, où on a parfois des gens qui sont à l'ESAT et puis pour des raisons X ou Y, décrochent, ne veulent plus venir travailler, ne peuvent plus suite à un accident ou à plein de choses. Donc on les accompagne pour les ramener vers le travail également.
Oui, c'est parfait.
Ok, on va rester dessus. Vous avez dit accompagner des jeunes, j'allais vous parler du public, mais en fait, c'est tout type de personnes, j'imagine.
Ah oui, c'est tout type. Alors, on parle plutôt des jeunes, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de candidatures des IMO, des IME et IM Pro, losériens et plus. Et c'est vrai que c'est pour ces jeunes-là où il y a le plus de difficultés, parce que ça fait vraiment une cassure entre l'accompagnement plus, alors c'est pas péjoratif, cocooning sur les IME, IM Pro, où après on est dans le monde du travail, voilà. Donc des fois la barrière est un peu importante, donc on est là pour accompagner toutes ces personnes. Mmh. Mais ça peut aussi être d'autres personnes qui viennent d'autres âges et d'autres secteurs.
La preuve en est, puisque Alexandre nous parlera de son parcours tout à l'heure.
Oui, voilà. Il y a aussi, on peut parler aussi des parcours qui est des personnes qui viennent de foyers de vie. Chose qu'avant, c'était un chemin difficile. Et de plus en plus, on peut accueillir des personnes qui sont en foyer de vie. Et pareil, l'accompagnement éducatif est de proximité dans ces centres-là. Donc c'est important qu'ils passent par notre dispositif pour rentrer sereinement dans le monde du travail.
La différence entre les deux, finalement, c'est que SRT, il était déjà dans le monde,
exactement,
la personne était
dans
déjà
les
dans le monde du travail, dans
voilà.
Les ATT.
Et l'étape, c'est pour les personnes qui souhaitent travailler en ESAT.
Quels besoins concrets ces dispositifs viennent combler pour les personnes qui en font appel ?
Le besoin déjà de comprendre, de connaître ce qu'est l'ESAT, parce que ce n'est pas forcément évident pour les personnes qui arrivent. Ça leur permet aussi de peaufiner leur projet professionnel, de savoir vers quelles activités ils souhaitent aller, puisqu'ils réalisent quelques petites activités. Là, ils ont refait des poubelles en bois, ils font le cadrage le cadrage
pour les ruches,
ils font de l'empotage de miel, l'étiquetage. Il y a plein de petites activités, la blanchisserie, mais Lydvine vous en parlerait mieux que moi. Voilà, c'est en même temps de découvrir ce qu'est l'ESAT et d'essayer de se positionner par rapport à une activité future.
On travaille aussi, on peut accompagner les personnes à faire des immersions. Donc, plein de personnes qui rentrent à l'ESAT ont déjà des idées définies. Moi, je voudrais travailler en cuisine ou à la menuiserie. Et en fait, en les accompagnant, il s'avère que l'atelier ne correspond pas à leurs besoins ou à leurs compétences. Donc aussi, on les accompagne pour faire des immersions, que ce soit à la Valette ou à les aides, enfin à les aides de la Valette ou à les aides de Bouledoir, et on essaie de construire avec eux, les accompagner pour pas que certains ateliers sont nombreux. Donc nous on est en plus, c'est pas une des, faut pas que le moniteur d'atelier ce soit une difficulté pour lui, pour gérer un peu son équipe. Donc nous on intervient et on accompagne sereinement sur les ateliers à découvrir toutes les possibilités.
Donc en fait vous venez en renfort, c'est-à-dire que oui. S'il y a une personne qui veut découvrir, mettons, l'atelier taille de pierre, l'atelier taille de pierre existe avec un moniteur et une équipe, oui. Et vous intégrez la personne accompagnée par étape ou par le SRT en plus, et c'est vous qui l'accompagnez.
Oui.
Je peux vous dire un mot si vous voulez par rapport au... Bonjour, c'est Alexandre. Par rapport aux immersions, j'ai fait 2 jours d'immersion dans l'atelier agrafage. Et ce qui était bien, c'est que ça m'a permis de savoir que je ne voulais pas faire l'agrafage, que ça ne me plaisait pas en fait. Donc on peut découvrir des choses qui nous plaisent, mais ça peut aussi nous
ça dire... clarifie votre choix en fait.
Oui, voilà. Et moi, je savais que je ne voulais pas faire l'agrafage. C'est grâce à l'immersion en fait.
Ça permet d'essayer, de voir, de tester, voilà, et de voir si on veut y rester ou pas.
Oui.
Ouais. C'est très bien parce que du coup, tu t'es rendu compte que finalement, tu as essayé,
oui.
Et ça a confirmé ce que tu pensais, mais au moins tu as,
oui,
essayé.
Voilà, j'avais un avis déjà, comme j'avais visité quand même le pot de bois, donc j'avais un petit peu un avis, mais là je suis sûr que ça ne me plaît pas et on m'orientera pas là-bas spécialement.
Ouais, ça a confirmé ce que vous pensiez, le fait d'essayer, ça a vraiment tout confirmé.
Mmh. Ouais. Oui.
Bah, peut-être qu'on va vous laisser la parole, nous expliquer un peu l'étape, comment ça s'est passé. Donc vous arriviez, vous n'aviez pas forcément travaillé et c'est l'étape qui vous a mis un peu le pied à l'étrier.
Oui, en fait ça faisait plus de peut-être 13 ans que j'étais sans activité professionnelle. Bref, j'ai eu des petites hospitalisations en psychiatrie. En fait j'ai une pathologie, je vis avec et je n'ai pas travaillé pendant 13 ans quoi. Et j'ai été orienté par quelqu'un pour travailler à l'ESAT. Et on m'a proposé dans un premier temps le dispositif étape. Du fait que je n'avais pas travaillé depuis très longtemps. Et on me l'a proposé en fait quand on a préparé le contrat, je ne sais pas comment dire.
Quand vous alliez intégrer en fait le foyer et l'ESAT en fait, quand vous alliez intégrer le Clos du Nid.
Oui.
Alors moi je suis pas au foyer, je suis externe.
Ah, d'accord. Ok.
C'est-à-dire j'ai un appartement en centre-ville de Marvejols. Donc je suis au Pôle Bois, l'ESAT du Pôle Bois. On était aussi à la Valette. Étape avant c'était à la Valette. C'est vers où la Valette?
Je sais plus où c'est. Chirac.
Chirac. Exactement. Oui.
En fait, du coup, quand vous avez eu une notification pour intégrer le Clos du Nid, immédiatement, Étape vous a pris en charge pour pouvoir effectivement peaufiner votre projet professionnel. C'est
oui,
ça, Lydvine ?
Quand une personne souhaite rentrer à l'ESAT, il y a des réunions qui se font en amont avec les coordinateurs de parcours. Et on essaie de faire un planning et de définir les besoins de la personne avant qu'elle arrive pour que son arrivée se passe au mieux. Voilà. Donc les personnes comme Alexandre qui n'ont pas travaillé depuis des années, généralement passent par notre dispositif. On évalue aussi dans notre dispositif, l'accompagnement peut être très court, de 1 mois ou 2 mois, ou peut durer plusieurs mois, suivant les besoins de la personne. Et en fait, ils peuvent venir, on évalue.
Voire plusieurs années.
Voilà. Et si l'accompagnement nécessite... si la personne s'intègre rapidement et n'a plus de besoin, on stoppe l'accompagnement, mais ça s'est fait progressivement.
J'ai un petit truc à dire par rapport à ça, c'est que moi, au début, j'avais 2 demi-journées le matin, le mardi matin et le jeudi matin de temps à étape. Et là, on a raccourci. Maintenant, j'ai plus qu'une matinée le jeudi matin. Du fait que, en fait, comme c'est une étape de transition, au début, les 2 matinées étaient très bien. Mais maintenant, une matinée est suffisante pour moi. Et peut-être, si ça se passe encore mieux, dans 3, 4, 6 mois, je ne sais pas trop, peut-être je vais quitter l'étape.
Parce que vous aurez intégré définitivement les ESAT de façon normale. Voilà.
Au départ, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'idée de de retravailler. Et en quoi l'étape, ça a peut-être solutionné vos soucis à ce niveau-là?
À l'étape, on fait pas mal de différentes activités, différents travaux, quoi, d'activités. Moi, ce qui me plaisait, c'est que c'était très diversifié, très varié ce qu'on fait sur étape. C'est large, quoi, on va dire, c'est large. Et ça me motivait pour me lever le matin, tout simplement.
Pour découvrir des nouvelles activités.
Oui, découvrir des activités professionnelles que je ne connaissais pas. Bon, comme disait M. Malfroy, il y a la miellerie. J'ai même fait une immersion. On avait fait une immersion à la blanchisserie, je crois. On a fait ça ou pas, je ne sais plus.
Oui, c'était cet été, pour préparer les kits.
Pour préparer les kits pour les hôtels,
oui, les draps. Et les VVF. On a beaucoup de chance sur le dispositif, et c'est vraiment une chance, c'est qu'on n'a pas la notion de production.
Oui.
On est le seul dispositif à l'ESAT où on n'a pas la notion de production. Et du coup, on peut vraiment prendre le temps avec les personnes de discuter, d'échanger, d'apprendre la posture du travail, les habiletés sociales, dans le monde professionnel. Donc voilà, et ça fonctionne plutôt bien.
Pour moi, je trouve qu'en fait, le dispositif ETAP était très adapté, d'où le terme transition adaptée professionnelle. Pour moi, dans mon cas, c'est très adapté par rapport à ma situation professionnelle, on va dire, par rapport à mon handicap, ma situation professionnelle, et les conditions de travail sont vraiment super au sein d'ETAP, quoi, vraiment.
Parce qu'en fait, c'est pas les salariés qui travaillent sur le dispositif ETAP, c'est eux qui s'adaptent à vous, et non l'inverse.
Oui, c'est...
Et à votre projet.
Et plus largement, la même chose, plus largement aussi pour les ZAT en général.
Pour les ZAT, c'est très, exactement la même chose.
Les ZAT, oui, très adaptés aussi, les ZAT. Bon, on est là pour parler d'ETAP, et d'RCRT, mais les ZAT en général est très adapté...
S'adapte au
comme du sur-mesure. Moi, je dirais, si j'avais un mot à dire, ce serait du sur-mesure, quoi, vraiment.
Là, vous êtes en menuiserie actuellement, c'est ça? Vous travaillez en menuiserie?
C'est ça.
Ça vous plaît?
Oui.
Je suis bien. Et donc, combien de jours par semaine? Alors, c'est quoi votre semaine,
Mon emploi du temps, ouais. Maintenant, j'ai lundi, mardi, mercredi, complète sur la menuiserie. Jeudi matin, étape, et jeudi après-midi, menuiserie.
Ok, ah oui, c'est complet, hein. C'est un temps complet.
J'ai aussi,
c'est un temps aménagé parce qu'on travaille du lundi au vendredi
partiel.
Midi.
D'accord. Je suis à 30 heures. Sur mon contrat, c'est marqué
30 heures. 30 heures. Oui, voilà. C'est prêt, on est presque à temps complet. Un temps complet, c'est 35 heures.
Temps partiel. En pratique.
Temps aménagé.
En pratique, ok. Il y a quel type d'atelier? Parce que donc, il y a de la menuiserie. Qu'est-ce qu'on propose dans le cadre des étapes?
On travaille très souvent avec la miellerie, avec les apiculteurs, en fait. Ils font de la mise en pot. Et c'est un travail, en fait, où on est à l'intérieur. Et c'est du travail à la chaîne. C'est une toute petite équipe. Et ça complète aussi... ça peut soutenir les apiculteurs quand ils doivent aller au rucher. Les apiculteurs ont 200 ruches. Donc 15 ruchers.
Donc on a fait une émission sur l'apiculture. Donc voilà. On sait tout sur l'apiculture.
Et à l'heure où on enregistre, il y a le concours des miels de Lozère, là, en ce moment.
Ah,
là,
exactement.
Ça, là, et les travailleurs, ils participent en tant que jury.
Oui.
Ah oui, super.
Donc beaucoup de filage de cadre. Après, par exemple, les foyers d'hébergement, s'ils ont besoin de fabriquer quelque chose, ils peuvent aussi nous solliciter. Donc moi, je suis monitrice éducatrice, mais mes deux collègues sont moniteurs d'atelier et ont des formations de menuisier.
Oui, parce que vous êtes une équipe de trois au niveau d'État et SRT.
Oui.
Ok.
Et donc voilà, ça peut être aussi refaire un escalier, refaire une passerelle. Voilà, on est en permanence à la recherche de chantiers. Pareil, moi qui interviens beaucoup à la miellerie, au fur et à mesure, en fait, là on fait la création de bougies de cire d'abeille de nos apiculteurs.
Ah oui, c'est vrai. Donc, qui vont être vendus, je fais un petit coup de pub là, qui vont être vendus.
Qui sont déjà en vente
à la boutique du Nid des Délices à Chirac. Voilà, oui. On va faire la pub sur les réseaux. J'ai pas eu le temps encore.
Mais voilà, ces idées naissent au fur et à mesure avec les chantiers qu'on a, avec les interventions et l'équipe qu'on accompagne actuellement.
Et en fait, on adapte les activités aux besoins des personnes qui sont accueillies. Si la personne souhaite aller vers les espaces verts, ils ont retaillé toutes les haies du pôle bois. Ça a servi aussi d'atelier. Sur la blanchisserie, on a étoffé un peu le dispositif étape où il y a une monitrice d'atelier qui, à partir de début décembre, va être uniquement sur la partie blanchisserie industrielle, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de nouveaux salariés, travailleurs qui arrivent, et les moniteurs, bah, ils n'ont pas forcément le temps de les aider, de les former. Donc cette personne sera dédiée à accompagner toutes les personnes pour la blanchisserie.
Il date de quand, ces dispositifs? On ne l'a pas dit.
De 2019.
2019, ah, c'est quand même récent, ouais.
Oui.
D'accord, et c'est arrivé suite à quoi?
Alors, comme a expliqué M. Malfroy, c'est suite aux besoins qui ont été repérés au fil du temps. L'adaptation des personnes.
Ça arrive aussi à un moment où le médico-social connaissait une transformation au niveau de sa configuration. C'est-à-dire que c'était le moment où on allait vraiment parler de parcours. Énormément du parcours de la personne en situation de handicap. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait un petit peu une organisation en tuyaux. Il y avait les IME qui accueillaient les enfants, les ESAT qui accueillaient les travailleurs, les foyers de vie qui accueillaient des personnes qui ne pouvaient pas être en situation de travail, et c'était assez cloisonné. Et dans les années, alors ça fait quelques années maintenant, hein, mais ça fait une quinzaine d'années où vraiment les tutelles nous demandent de passer de la verticalité un petit peu à l'horizontalité, avec la création de parcours de personnes qui peuvent avec des passerelles, hein, des parcours de personnes qui peuvent aller d'un établissement à un autre de façon plus facile, avec la création de dispositifs pour permettre et faciliter ces passerelles-là. On est aussi en plein dans le rapport zéro sans solution, avec tout ce qui est d'éviter les ruptures de parcours. Donc tout ce qui est effectivement aussi créer des dispositifs pour améliorer ces créations de parcours et les ruptures de parcours. Et avec SRT, on est complètement dans ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la remise au travail des personnes qui pourraient avoir des difficultés, du mal-être, de la perte de sens, pour vraiment éviter la rupture de parcours. Et avec étape, on est sur le côté passerelle, sas de transition entre établissements. Et on va le voir aussi c'est vrai avec les établissements pour enfants, mais c'est vrai aussi avec des foyers de vie. On a Boris qui était en foyer de vie, qui fait des journées aujourd'hui de travail à l'ESAT. Donc je pense qu'aussi ces créations de dispositifs sont nées à un moment où le médico-social est en train de se transformer, et vraiment concrètement. Voilà, avec des dispositions qui horizontalisent les choses, et vraiment la notion de parcours qui se concrétise réellement au niveau des personnes en situation de handicap.
Merci Anne, c'est bien clair comme ça. L'étape, à part cet objectif d'insertion dans le monde du travail, au-delà de ça, quels sont les grands objectifs des étapes et des SRT?
Bah, étape SRT, on l'a un peu dit depuis tout à l'heure. Étape, c'est vraiment étape de transition, hein, pour accompagner les personnes dans les ESAT et vers leur souhait d'activité. Et SRT, c'est vraiment aider les personnes à reprendre, j'allais dire, goût au travail, et en même temps de faire, comme dans ton cas, tu as parlé de l'agrafage qui ne te plaisait pas, oui. Et bien c'est de faire des tests, des immersions sur d'autres activités pour essayer de trouver la bonne activité.
D'accord, mais
concrètement.
Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà de ça, j'imagine que vous travaillez sur l'aspect social, l'aspect de travailler avec les autres, qu'il y a d'autres objectifs mis à part le travail.
La confiance en soi aussi, je pense.
Voilà, la confiance en soi.
Et la satisfaction d'exercer un travail ou une activité qui apporte de la satisfaction, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Lidvine, comment vous travaillez sur ça? Sur la confiance en soi, sur le fait d'apporter un cadre sécurisant?
En fait, on est une toute petite équipe. Les personnes qu'on reçoit, il y a maximum 5 personnes sur les demi-journées. Donc on peut vraiment travailler sur l'individualité. Et ça donne énormément confiance en soi. Ça permet à la personne aussi de se sentir sécurisée, d'être dans un endroit calme, voilà. Rentrer dans le monde professionnel, c'est vraiment important. Et ça les mobilise après pour retourner sur leur atelier, en fait.
Et concrètement, c'est-à-dire que vous, du coup, vous qui sont un petit nombre, vous avez parlé tout à l'heure d'habileté sociale, hein, vous leur apprenez aussi des compétences techniques.
Oui.
Expliquez-nous concrètement comment ça se passe.
Donc un exemple, par exemple, il faut qu'on fasse 1500 cadres pour les apiculteurs. Donc ça nous prend plusieurs mois, surtout qu'il n'y a pas la notion de production sur notre atelier. Donc là, on va apprendre, y a des personnes qui ont mis, par exemple, 3 mois à savoir faire un cadre. Mais ce n'est pas grave, on a pris le temps. Tous les jours un petit peu, on réessaye. Si ça fonctionne pas, on trouve d'autres.
Concentration aussi.
Voilà. On travaille sur des gabarits. On peut, pour aider la personne, repérer du coup ses besoins. On peut après du coup fabriquer des gabarits pour l'aider à arriver à son objectif.
C'est-à-dire que vous travaillez des compétences qui vont pouvoir lui servir plus tard, mettons en menuiserie. Donc ça va être clouter le cadre, oui,
le filage,
des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur l'apprentissage des choses techniques.
Oui.
Ok. Oui. Et vous parliez tout à l'heure aussi d'habileté sociale.
Oui. Après, alors, les habiletés sociales, c'est ça se travaille aussi. On fait des réunions, que ce soit avec l'équipe éducative, que ce soit avec les psychologues, pour voir un peu repérer les besoins et savoir comment on peut soutenir la personne. Donc, il y a différents exemples. On peut travailler sur des pictogrammes, par exemple. Pour traiter les émotions lors du travail, avec les conflits, quand il y a des conflits, ce qui arrive très souvent dans les équipes, comment on traite ça. Donc voilà, on prend ce temps-là avec eux de discuter, voir comment eux, ils voient les choses, quels moyens on peut mettre en place pour les aider à ce moment-là. C'est tout ce travail, et c'est vraiment du travail individualisé.
Au-delà des habiletés sociales, j'imagine que vous travaillez aussi sur leur apprentissage des codes du travail, sur la ponctualité, sur le...
Exactement.
Ça fait partie des habiletés sociales, d'arriver à l'heure le matin, de dire bonjour. Tout le monde ne le fait pas, et je ne parle pas que des travailleurs. C'est le béaba quoi, de la vie en communauté.
De savoir comment on fait aussi si on se sent pas, enfin si la personne peut être malade, on prévient les AT, on va chez le médecin, il y a certains protocoles. Voilà, on voit tout ça avec eux, on leur apporte tout ça.
Litvine, vous accompagnez à la fois sur les deux, sur l'étape et le SRT. Est-ce que votre posture est différente suivant dans quel dispositif vous travaillez, ou finalement non, c'est du pareil au même ?
Non, pour moi c'est du pareil au même. Ma posture change suivant la personne que j'ai en face et d'accord, suivant leur projet et leur parcours.
Je pense que le terme adapté est vraiment approprié
adapté
pour étape, pour SRT et pour les AT en général adapté.
Alexandre, on reste avec vous. Si vous repensez à votre parcours et donc à votre insertion dans le monde du travail par l'étape, à quel moment vous êtes dit, est-ce qu'il y a eu un déclic, que vous êtes dit, c'est bon, là, je peux y arriver, je peux repartir dans le monde du travail
Avant que je rentre à l'étape ou...
Non, au moment où vous rentrez à l'étape, ou avant peut-être, avec les stages, si vous avez fait des stages, je ne sais pas. À quel moment vous avez passé un cap?
En fait, je suis arrivé en Lozère avec des circonstances un peu de ma vie privée, quoi. J'ai fait 5 mois de stage au Pôle Bois. En fait, j'avais pas l'orientation. Il faut une attestation d'orientation professionnelle en milieu ESAT par rapport à l'MDPH. Donc j'ai dû renvoyer un dossier, refaire les démarches, tout ça. Et ça a mis environ 5-6 mois à se mettre en place. Et sans cette permission, on va dire, entre guillemets, sans ce justificatif, je ne pouvais pas travailler à l'ESAT et donc étape. Moi, je savais déjà que j'avais fait, au bout de 2-3 mois de menuiserie en tant que stagiaire, ça me plaisait. Et dès que j'ai eu le papier d'orientation ESAT, j'ai intégré la menuiserie.
C'est au moment du stage. Le stage, c'est en étape ou c'est avant l'étape?
Non, le stage, en fait, c'était le planning qu'Alexandre a expliqué tout à l'heure. Donc, même pendant le stage, le lundi, il travaillait en menuiserie.
D'accord.
Mardi matin et jeudi matin, il était sur étape. Mmh. Voilà. C'était pour l'accompagner, qu'il soit stagiaire ou pas. On l'accompagne
étape
quand même.
Étape était déjà dans mon emploi du
d'accord.
temps.
D'accord. Ouais, c'est essentiel, ces stages, en fait.
C'était aussi bien pour le bois que pour étape. Et je gardais le même emploi du temps. Maintenant, je travaille... on a modifié un peu l'étape, mais...
Et par rapport à l'étape, justement, Alexandre a été aussi accompagné par un de mes collègues, de mes anciens collègues, parce que l'équipe a changé depuis, mais à l'atelier menuiserie, pour apprendre aussi certaines machines. On peut aussi intervenir sur l'atelier actuel pour apprendre des
machines. Je l'ai fait, ça, il y a quelques mois, ça...
Voilà.
D'accord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous arrivez en plus sur l'équipe pour vraiment faire les apprentissages techniques, des machines concrets sur l'atelier.
Oui, on a cette possibilité-là, oui.
En fait, les formations sur les machines, voilà, parce que, encore une fois, les moniteurs, bah, parfois, ils n'ont pas le temps parce qu'ils ont beaucoup de monde.
Et beaucoup de production.
Donc, Étape arrive en soutien pour former les personnes d'Étape sur certaines machines, ce qui permet après, nous, derrière, une fois qu'on a bien formé la personne, de donner les habilités pour travailler sur tel ou tel matériel. Bon,
bah, disons qu'avec Étape, on prend le temps de faire les choses. Et on a, par exemple, moi, j'avais fait un apprentissage sur la commande numérique en menuiserie. Et on a utilisé une partie du temps Étape dans l'atelier menuiserie sur cette machine pour que le collègue de travail qui travaille sur cette machine puisse bien me montrer, prenne le temps de me montrer comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de temps aussi. On prend le temps, quoi, Étape, en fait. On prend le temps de faire les choses et on essaie de les faire bien aussi.
Et là, pour le coup, c'est pas un moniteur qui t'a formé.
Non, c'est un collègue de travail.
C'est ton collègue qui travaille habituellement sur
cette machine. C'est encore mieux. Mais
oui, exactement.
C'est ça qui est super aussi, aussi bien Étape qu'à ESAT, que dans ESAT. C'est que là, il y a un collègue de travail, qui, même encore hier dans l'atelier menuiserie, il me montrait des choses, ceci, cela. La
paire aidance, vous privilégiez ça beaucoup en ESAT,
oui,
Patrick
ouais. Ah oui, c'est important parce que déjà pour la personne qui arrive, parce que peut-être le message passe mieux et puis on se rend compte que, en général, les travailleurs sur les ESAT, ils sont toujours très contents de montrer ce qu'ils font. Donc ça participe à tout ça. Et ils le font tellement bien que il faut continuer comme ça.
Et pour la confiance en soi.
Exactement.
Oui.
Il y a des évaluations après les stages ou pas? Comment ça se passe?
Vas-y, Vine.
Non, il n'y a pas forcément d'évaluation. Après, par contre, du coup, il y a après un stage, il y a un bilan. Exactement.
Ouais, bilan.
Qui est fait avec la personne, avec son couple.
Tous les 6 mois, je crois, c'est ça. Environ.
Alors, ça, c'est le projet de la personne. Ça, c'est une fois par an.
Oui.
Si la personne ne demande pas avant. Parce qu'on peut le demander à tout moment. Mais je reviens sur les stages, par contre, du coup, il y a un bilan après chaque stage. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, sur Étape, on a aussi, on peut évaluer. On a évalué les compétences de la personne, les besoins repérés. Donc là, il y a des exemples, j'en ai plusieurs. Il y a des personnes qui viennent de foyers de vie qui ont fait plusieurs stages et qui se sont rendues compte, grâce par exemple à 3 ou 4 stages, sur 6 mois, que actuellement, je dis bien actuellement, cette personne n'est pas en capacité de travailler en ESAT. On les amène aussi parce que plein de personnes veulent travailler en ESAT mais ne se rendent pas compte de ce qu'il en est réellement. Donc ces stages aussi permettent à accompagner la personne et que ce ne soit pas un échec. Voilà.
On a combien de personnes actuellement en stage pour se donner un ordre d'idée? C'est une question piège, mais...
Toutes les personnes en
stage sur Étape
Parce que toutes les personnes en stage ne passent pas forcément par notre dispositif. Ça dépend des besoins repérés auparavant.
Il peut y en avoir. Bien.
En fait, je pense qu'on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Il y a le SAMO, le service d'accompagnement à la mobilité. Donc, lors de ces commissions SAMO, il y a un candidat qui arrive. Et à l'étude de son dossier, on se positionne en indiquant que cette personne, ça serait bien qu'il puisse bénéficier du dispositif Étape. Mais en général, comme disait Lidvine, il y a 5-6 personnes par demi-journée,
D'accord.
Mais pas plus.
Dorian, vous êtes avec nous. Alors vous avez travaillé plusieurs années en ESAT avant de traverser une période de rupture. Vous avez refusé le travail pendant plusieurs mois. Vous travailliez à l'agrafage, c'était ça à l'époque?
J'ai travaillé auparavant, oui.
Oui, voilà.
Je travaille actuellement au débitage depuis quelques mois et c'est un travail assez plaisant.
D'accord. L'agrafage aussi, c'était...
Et vague-mestre.
Aussi, oui.
Cette époque entre deux, là où vous aviez plus envie de travailler, comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu cette période? J'imagine que c'était compliqué.
Très compliqué, oui. Donc, ça a été une période un peu de big bang dans ma tête, où je réfléchissais trop, où ça allait plus trop bien dans ma tête, et voilà quoi. Donc, J'ai pris un peu le temps de revenir au travail. Quoi.
C'était le métier qui vous plaisait plus, c'était
C'était l'ambiance en général qui me plaisait plus.
Du coup, Lydine, vous l'avez accompagnée avec le SRT, c'est ça?
Oui, exactement.
Alors comment ça s'est passé? Expliquez-nous.
Oui, donc Dorian, j'ai repéré du coup qu'il n'était pas venu au travail depuis plusieurs semaines. J'ai contacté son coordo de parcours, savoir si je pouvais me permettre d'intervenir, de l'appeler pour lui présenter le service et me déplacer à sa rencontre. Donc c'est comme ça que ça s'est passé.
Oui.
Et je lui ai expliqué que le dispositif SRT, c'était pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Trouver des solutions et l'accompagner, pourquoi pas, à des immersions, trouver un autre atelier et reconstruire avec lui son projet professionnel. Donc Dorian a accepté de venir essayer, parce que chaque personne peut arrêter l'accompagnement par le dispositif à tout moment. Et en fait, c'est comme ça que la relation s'est créée. Voilà.
Du coup, pour vous, Dorian, qu'est-ce que ça a changé, je ne sais pas moi, en termes de confiance, de motivation, voire de rythme de travail, le SRT
Franchement, pour moi, ça a tout changé. Ça m'a redonné goût au travail, savoir quoi faire de mes mains.
Et concrètement, alors, qu'est-ce que vous avez construit concrètement? Donc, quand il a été OK, qu'il a dit oui, OK, j'accepte d'intégrer le SRT. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement?
Du coup, on a passé beaucoup de temps à discuter. Comprendre qu'est-ce qui n'allait pas actuellement sur son atelier, pourquoi il en était arrivé là, et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place maintenant, de quoi il avait envie pour se redonner goût au travail. Donc c'est de là qu'il a fait plusieurs stages. Il a dit bah, j'aimerais bien essayer d'autres ateliers. Donc on a mis en place des stages, que ce soit la valette au ménage.
Oui.
Ensuite Dorian a le permis de conduire et il était intéressé pour utiliser du coup son permis dans son activité professionnelle. Donc, par rapport à ça, on a fait des stages aussi en temps au DIP, au dispositif d'inclusion professionnelle, pour qu'il soit vague-mestre. C'est pas un travail à temps plein, donc il fallait trouver aussi un autre atelier qui convienne. Donc on a fait plusieurs stages. Et donc Dorian, maintenant actuellement, travaille au débitage à mi-temps et l'autre mi-temps en tant que vague-mestre.
Alors vague-mestre, en fait, c'est le service qu'on a.
J'allais demander ce que c'était.
Vague-mestre, c'est le service qu'on a au Clos du Nid qui consiste à apporter les courriers, transporter les courriers d'un établissement à un autre. Voilà.
C'est ça. C'est ça.
D'accord. Donc là, vague-mestre et menuiserie en ce moment, c'est ça?
Et débitage.
Débitage. D'accord. Vous préférez quoi des deux?
Ouais.
Vous en préférez un des deux ou pas? Entre vague-mestre et débitage?
Entre vague-mestre et débitage, j'aime bien les deux. C'est parce que le vague-mestre permet de bouger, d'aller dans différents sites.
Et alors, l'emploi du temps s'organise comment sur une semaine, Dorian?
En fait, le lundi matin, je suis au débitage. L'après-midi, je suis vague-mestre. Je suis vague-mestre également le jeudi après-midi et vendredi matin. Et je fais étape le mercredi après-midi et tout le reste, je suis au débitage.
Hashtag Ludovic Terrol, Anne Clémence.
Dorian venait sur le dispositif SRT, 3 demi-journées par semaine au tout départ, le temps qu'on trouve un atelier, que la relation se crée, qu'il reprenne goût et l'envie surtout de revenir sur les attes. Et ça va faire un an qu'on l'accompagne et donc ça s'est énormément allégé et maintenant on l'accompagne que une demi-journée par semaine pour pas arrêter brutalement l'accompagnement et que ça se fasse tranquillement.
Et sur cette demi-journée vous faites quoi concrètement?
Ça dépend les besoins. Ces temps-ci on est beaucoup intervenu à la miellerie, la mise en pot du miel.
Mais pour travailler quoi particulièrement? La concentration, la
concentration,
technicité,
le travail à la chaîne. Beaucoup d'ateliers au pôle bois, quand même, dépendent du travail à la chaîne. Et ça, c'est un peu la mise en pot, c'est intéressant pour étape parce que c'est un petit, c'est vraiment un endroit qui est petit, restreint. Mais du coup, il y a peu de personnes et on comprend bien le travail à la chaîne, le rythme de chacun. Qu'il faut s'adapter aussi à ses collègues de travail. Enfin, voilà, on travaille.
D'accord, donc vous apprenez de la méthodologie,
oui.
Hein, de
le respect des autres.
Le respect, des façons d'être.
Exactement.
Ok.
Qui c'est qui décide de l'arrêt de ces accompagnements? C'est vous en tant que superviseur?
Non, pas du tout. Ça peut venir de différentes personnes. Ça peut venir du moniteur d'atelier, juste qui demande, peut-être de son point de vue, il demande des staffs, en fait, des réunions où chacun peut dire ce qu'il en est de la situation et qu'est-ce qui...
Est-ce qu'il est prêt à être, lâché, entre guillemets, ou pas?
Exactement. Et lors de ces réunions, donc, si, par exemple, le moniteur d'atelier en fait la demande, il y aura, du coup, tous les gens qui gravitent autour de la personne. Donc, le psychologue, le foyer d'hébergement, le moniteur d'atelier, étape, et on discute ensemble de la situation actuelle. Mmh.
D'accord. Donc, Dorian n'est pas loin d'arrêter le SRT, là? S'il n'y a plus qu'une demi-journée, si j'ai bien compris.
Je laisse Dorian répondre.
Pour le moment, je vais un peu continuer et après, on verra bien.
Il y a ce petit côté sécurisant. C'est pour ça qu'on garde toujours un petit temps.
Lidvine, vous qui avez accompagné Alexandre et Dorian, quels sont les progrès les plus marquants que vous avez vus chez ces deux travailleurs dans les deux dispositifs qu'on a présentés?
Pour Alexandre, je dirais ce qui m'a le plus marqué, c'est sa confiance en lui. En un an et demi, je trouve que sa confiance, au début, tu étais quand même très gêné. Tu disais, j'ai beaucoup de chance. Et là, tu prends beaucoup de confiance à l'atelier aussi. Il se permet de travailler sur des machines que tu n'aurais pas imaginées, je pense,
oui, il y a un an et demi. J'ai pris mes marques aussi, on peut dire.
Il a passé, la semaine dernière, il lui manque l'autorisation de conduite, juste.
Oui.
c'était le gerbeur?
Oui, j'étais en formation pendant une journée sur le gerbeur. Donc pour ceux qui ne savent pas, un gerbeur, c'est un genre de transpalette électrique qui peut porter des charges jusqu'à 1,5 tonne à 2,50 m de hauteur. Et j'ai eu une formation là-dessus il y a 15 jours. Formation initiation, plus exactement.
Voilà. Et concernant Dorian, Dorian, il est le plus flagrant, ça a été... Dorian a fait une rupture avec le travail pendant 4 mois, c'est pas rien. Et très rapidement, en fait, il s'est senti à l'aise sur notre dispositif et il a su dire, se positionner, enfin, de savoir, j'ai envie de conduire, donc comment on construit mon projet autour de ça, de se permettre de demander des choses. Parce qu'il était là, tu es en ESAT depuis 2011, et c'est vrai que jusqu'à présent, il avait fait peu de demandes, et donc ça a été pris en compte, et il a un très bon planning et un bon équilibre, je trouve, actuellement.
Ouais. Donc ça lui a permis de s'extérioriser, en fait, de s'exprimer, de dire des choses. Hein, ouais.
Dorian, exactement. Vous voulez réagir sur ça?
Elle a tout dit.
Elle a tout dit.
C'est et ça part au départ de ta volonté à toi de...
Oui.
D'intégrer le SRT. Parce que déjà, inconsciemment, tu avais envie de revenir vers le travail.
Oui.
Et en accédant au SRT, c'est ce qui a permis de réaliser tout ça.
C'est ça.
Et est-ce que tu peux nous dire ce qui allait plus et ce qui va mieux maintenant?
Ce qui va mieux, c'est déjà l'ambiance au travail. C'est parce que pour moi, c'est primordial, si on veut bien travailler ensemble, de bien s'entendre. Quoi.
Donc toi, tu te sens bien dans l'équipe où tu es à l'heure actuelle?
Oui.
Ok.
C'est l'équipe. Mieux. C'est parce que l'équipe a changé ou c'est parce que toi aussi tu as peut-être changé ta façon de te comporter avec les autres? C'est quoi? Ou c'est un peu des deux peut-être?
Peut-être un peu des deux.
Et ça, l'équipe du SRT t'a aidé? Tu sens que
ouais, beaucoup, oui.
Oui.
Ouais, oui. Ils m'ont beaucoup aidé.
Comment? Quels sont les exercices ou les activités qui t'ont le plus aidé?
Je saurais pas exactement vous dire là à l'heure actuelle, mais.
Lidvine va nous dire.
Oui, du coup, c'était... Donc, Dorian, depuis 2011, il est en ESAT et il connaissait que le pôle bois. Et en fait, le fait de se permettre de travailler, de faire des stages ou des immersions dans d'autres ESAT, que ce soit Lavalette, Bouledoir, de voir toutes ces possibilités, t'a vraiment apporté et t'a aidé à retrouver du sens au travail.
Oui.
Sachant que maintenant, il retravaille au pôle bois.
D'accord.
Donc, c'était vraiment
ça, c'est super. Ça.
Et aussi retrouver le goût du travail aussi, avoir plaisir à fabriquer des choses, à produire des choses. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, la satisfaction personnelle de fournir un travail, quel qu'il soit le travail d'ailleurs, la satisfaction quoi.
Vous êtes combien dans les équipes SRT et TAP à peu près?
Combien de personnes on accompagne ?
Non, combien vous êtes pour accompagner
On est trois.
Trois.
D'accord. Alors, et depuis début décembre, on est quatre parce qu'il y a une personne qui a été repérée sur l'ESAT de Bouledoire.
D'accord.
Pour accompagner les personnes qui arrivent en stage ou en immersion.
Est-ce que quand on sort de ces dispositifs, on peut y revenir ?
Oui.
Oui,
bien sûr. Alors, quand on fait partie d'étapes, du coup, c'est des personnes qui ne travaillaient pas en ESAT. Donc, par exemple, si au bout de... ce sont des exemples. Si au bout de 3 ans, la personne... y a des difficultés qui ont été repérées sur l'atelier, il peut venir sur le dispositif SRT.
J'aimerais bien qu'on parle, moi, de Boris Roudier, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui a un parcours très intéressant et qui a été accompagné par étapes également. Vous pouvez nous en parler de Boris, qui était venu dans une émission pour parler de l'obtention de ses RSFP, de sa reconnaissance des savoir-faire professionnels. Il était venu il y a quelques mois. Et aujourd'hui, il a bien progressé. Boris, vous pouvez nous en parler ?
Oui, donc Boris travaille à un temps aménagé.
Alors, il vient d'où, Boris, déjà ?
Du foyer de vie. Il vient d'un foyer de vie.
Voilà, c'est
ça. Sur Marvejols. Il habite toujours actuellement en foyer de vie. Et il est rentré progressivement dans le monde du travail. Donc, il est accompagné par le dispositif étape, par contre, tous les après-midi. Parce qu'actuellement, on travaille sur une réorientation d'atelier. Voilà, on a repéré ses besoins et ses compétences. Et on l'accompagne, on fait des immersions sur un autre atelier.
Mais déjà, vu qu'il venait de foyer de vie, vous lui avez appris un certain nombre de choses, puisque les personnes qui résident en foyer de vie ne sont pas forcément aiguillées vers le monde du travail. Hein,
oui.
La notification foyer de vie, c'est souvent pour des personnes qui n'ont pas forcément la capacité à travailler.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Boris ?
Déjà, je pense que son foyer de vie a fait un très, très grand travail avec Boris, déjà, je pense, pour le préparer à rentrer dans le monde du travail.
Alors, il l'a fait avec notamment l'obtention des reconnaissances des savoir-faire
Exactement.
Professionnels hein, qui se développent de plus en plus dans les foyers de vie au niveau du Clos d'Uny. Et c'est assez novateur parce que les RSFP, jusque-là, n'étaient attribués qu'à des travailleurs d'ESAT ou des jeunes d'IMPRO. Et le Clos d'Uny a été une des premières associations à développer ces attestations au sein de foyers de vie. Donc, c'est vrai que les foyers de vie au Clos ont vraiment cette dynamique-là de créer de l'activité pour les personnes qui résident en foyer de vie.
Oui. Ensuite, nous, le travail qu'on a... le plus efficace avec Boris, c'était de travailler sur le travail d'équipe. Boris, en foyer de vie, du coup, c'est des centres où c'est quand même assez cocooning, si je peux me permettre. Et du coup, la réalité du monde du travail, des équipes, des conflits qu'il y a, était très difficile pour lui à gérer. Donc, on a énormément travaillé sur comment gérer les conflits, comment s'apaiser, quelles solutions on a, vers qui se tourner à tel moment, suivant telle situation. Voilà.
Pour répondre à sa demande, puisque c'était une demande de Boris lui-même qui voulait intégrer le travail adapté.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Et qui se déroule très bien.
Voilà. Et donc, du coup, il est dans quel atelier à l'heure actuelle ?
Actuellement, il est à l'atelier Entretien des locaux à La Valette.
Okay.
Et on fait des immersions sur... je l'ai accompagné pendant plusieurs mois à l'atelier Blanchisserie.
D'accord.
Voilà. Parce que on a repéré des besoins, par exemple, par rapport à Boris, la fatigabilité. Et Entretien des locaux, c'est des chantiers qui sont à l'extérieur. On bouge, passer la serpillière, on reste debout, le balai également, et c'est difficile pour lui. Donc on a essayé d'adapter aussi ses compétences et un atelier. Donc pour l'instant, il est entre les deux, pour que lui aussi puisse choisir et voir les points positifs de chaque atelier, les points négatifs, et ce sera son choix après.
Et quelle est son organisation là ? Quel est le temps qui passe en ESAT et quel est le temps qui passe en foyer ?
Donc en ESAT, il travaille tous les matins à l'entretien des locaux et l'après-midi, tous les après-midi, il est sur étape. Mais le mardi après-midi, le jeudi après-midi, il fait les immersions en blanchisserie.
D'accord. Donc il a vraiment des semaines autour du travail.
Exactement.
Et du coup, le foyer de vie est pour la partie après accompagnement en soirée puis hébergement.
Oui, exactement.
Ça doit être compliqué de jongler là, avec tous les calendriers.
Oui, c'est pas évident. Mais on s'adapte, le dispositif est spécifique pour s'adapter à chaque personne.
Mais quand on parlait de dispositif passerelle tout à l'heure, là, et de transition et de entre les établissements, mais on a parlé effectivement d'étapes qui aidaient les jeunes à passer des établissements pour enfants aux établissements pour adultes, mais étapes. Comme l'a dit Lidvine au début, c'est aussi la possibilité de donner à des résidents d'établissements qui, a priori, n'ont pas du tout la vocation à aller vers le monde du travail, à y aller aussi. Donc vraiment, voilà, on est, je parlais d'horizontalité et de passerelle et de parcours vraiment diversifiés. Et là, on y est typiquement. Et Boris est un bel exemple.
Oui.
C'est propre à la Lozère, ce dispositif ?
Ce dispositif étape SRT.
Étape, oui. SRT aussi, oui. Enfin, je me suis pas renseigné sur d'autres départements, mais c'est vraiment un dispositif qu'on a monté à notre main, oui.
Oui, c'est la volonté de l'ESAT.
Une nouvelle fois. Anne.
Une nouvelle fois, ça démontre effectivement la capacité d'innovation de nos associations et ce nécessaire besoin en fait d'être toujours dans l'innovation. Lors de la dernière émission, Monsieur Bardou qui est directeur général de l'association A2LFS, mais notre directeur aussi Patrick Julien qui est directeur de l'association Le Clos du Nil le dit souvent. Pour continuer à exister dans nos départements, il faut être innovant. Et c'est vraiment le cas et c'est vraiment l'ADN de nos associations dans nos départements.
Alors ce sont deux dispositifs qui sont jeunes, on l'a dit. Est-ce qu'ils ont un peu évolué depuis leur création ou pas ? Est-ce qu'on s'adapte aux besoins des personnes ? On se dit ça marche mieux que dans l'accompagnement ou pas forcément ?
L'évolution, elle est quotidienne en fonction des parcours de chaque personne. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas à eux de s'adapter à nous, c'est nous nous adapter à leurs besoins et c'est ce qu'on fait régulièrement. Donc, des moments, il y a des innovations, on fait des choses qu'on n'avait pas prévues, mais c'est tout l'intérêt de ces dispositifs.
Et preuve année avec le cas de Boris, c'est-à-dire que quand Étape avait été créée, c'était surtout pour permettre les transitions entre les établissements pour enfants et les établissements pour adultes. Et là, aujourd'hui, on en est à accompagner des personnes qui sont en foyer de vie pour entrer dans le monde du travail, des personnes qui viennent de l'extérieur, comme c'est le cas d'Alexandre. Pour intégrer aussi le monde du travail. Donc, en soi, depuis 2019, ça a forcément évolué, ne serait-ce qu'au niveau du public et des besoins.
Oui. Et c'est pas fini, ça va continuer.
Forcément.
Avec le plan de transformation des ESAT, notamment.
Peut-être pour finir cette émission, Alexandre, vous arrivez à vous projeter maintenant là que vous avez trouvé un métier, un domaine qui vous plaît pour l'instant. Alors, vit au jour le jour. Dans quel état d'esprit vous êtes ?
Je suis à long terme, pas vraiment. Mais vraiment, par contre, je suis très content de mon travail, de ce que je fais aussi bien à l'étape qu'en menuiserie. Comme on disait, beaucoup d'accompagnement et d'adaptation par rapport à moi, quoi, par rapport à ma personne. Et voilà. Mais j'arrive pas trop à me projeter vraiment à long terme, non. Là, pour l'instant, je suis bien où je suis, j'aime mon travail et je le ferai comme je peux.
C'est essentiel déjà.
C'est ça.
Dorian, là, actuellement, vous sentez bien, vous sentez heureux au travail ?
Oui. C'est le principal. Là, pour le moment, il n'y a pas de raison d'arrêter.
Et tu te projettes comment aussi, toi, pour l'avenir ? Tu as d'autres projets maintenant que tu as trouvé un nouveau chemin, le boulot te plaît à nouveau ?
C'est de continuer comme ça. C'est de continuer dans ce tour-là. Toujours avoir la motivation d'aller au travail.
Super.
Voilà. Je vis avec une pathologie et le travail. Et entre donc les AT et étapes m'a permis de me stabiliser aussi pour ma vie personnelle et pour ma santé psychique en fait. Donc ça m'a permis de me stabiliser, me lever le matin, aller au travail, tout ça. Et ça, je dis ça peut-être pour ceux qui ont été dans la même situation que moi avec une pathologie. Le travail peut vraiment aider à avoir une meilleure santé psychique, quoi.
Ouais, donc
ce qui confirme que le travail, c'est la santé.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est
ce que je dis toujours.
C'est ça, et voilà. Et pour clôturer, les témoignages ici confirment que le travail adapté ne consiste pas seulement à apprendre un métier, c'est aussi retrouver un rythme, une confiance, un sens. Et étapes comme le SRT rappellent que chacun avance à son rythme, avec ses forces, ses fragilités, et que l'essentiel, c'est d'être accompagné dans un cadre où l'on peut essayer, se tromper, recommencer et surtout progresser. Merci, et on se retrouve le mois prochain, Anne, pour une nouvelle émission.
Tout à fait, à très vite.
Merci à
vous. Merci.
Merci beaucoup.
Hashtag. Un autre regard sur le handicap.